Les cinéphiles, Sandra.
Bonsoir, bienvenue chez les cinéphiles. On va, comme chaque lundi, commencer cette émission en prenant connaissance des sorties de la semaine. Ce sera avec notre invité, le critique cinéma Raphaël Chevalet. Juste après s'être informé à 18h30 en compagnie de David Sanchez, eh bien, ce sera place à la critique avec ce soir un film adapté d'une histoire vraie qui fit bien des émules à l'époque. Chacun pour tous, qui concerne des enfants, des adolescents qui seront à l'honneur également en fin d'émission dans Bande Original. Nous écouterons quelques extraits de la musique du film Les Choristes. Aux alentours de 18h45, tenez-vous prêts, ce sera à vous de jouer et tenter de retrouver grâce à un extrait le titre d'un film. Et si la chance vous sourit ce soir, eh bien vous repartirez avec deux entrées pour vous rendre à la séance de votre choix dans nos cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital. Les cinéphiles, c'est tout de suite jusqu'à 19h. Très bon début de soirée.
Les cinéphiles, les sorties.
Comme chaque semaine chez les cinéphiles, on s'intéresse aux sorties de la semaine et ce soir on le fait en compagnie de notre critique cinéma Raphaël Chevalet. Raphaël, bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Alors à l'affiche dès mercredi, un film fantastique dans la veine d'Harry Potter. C'est d'ailleurs J.K. Rowling, l'auteur des aventures d'Harry, qui revient et nous propose le deuxième volet des Animaux Fantastiques, un film sous forme d'extension du monde des sorciers.
Oui, exactement. Donc c'est Les Crimes de Grindelwald. Ça se passe dans les années 20, donc c'est la suite des aventures de Norbert Dragono. Et puis, il y a Albus Dumbledore, qui est jeune, hein, donc dans cette histoire qui se passerait avant Harry Potter. Il va demander à ce Norbert Dragono d'affronter le très machiavélique sorcier Grindelwald, qui est joué par Johnny Depp. Johnny Depp tout blanc, tout pâle dans le film.
Mais tout beau.
Car c'est un méchant, hein, ce Grindelwald, il fomente des attaques sur les humains normaux par des méchants sorciers, et puis des bestioles aussi. Et donc ce jeune homme va l'affronter, il est très loyal et il n'est pas avide de pouvoir comme tous les autres, et c'est pour ça que c'est le seul qu'il peut l'affronter. C'est pas vraiment Harry Potter, hein, c'est plus dur. Il n'y a pas d'effusion de sang, bien sûr, mais il y a des bestioles inquiétantes, puis des effets spéciaux impressionnants. C'est en 3D aussi. Donc c'est un bon divertissement pour les grands-enfants qui sont passionnés de fantastique.
Autre série et autre volet, la suite des aventures de Lisbeth Salander, l'héroïne de Millennium, adaptée des romans du même nom du talentueux et regretté Stieg Larsson et interprétée par Claire Foy, que l'on a découvert dernièrement en épouse de First Man. Une Claire Foy en action, déroutante pour un film qui ne conviendra pas aux âmes sensibles.
C'est pas exactement la suite de Millennium, parce que vous l'avez dit, hein, Stieg Larsson est mort, malheureusement pour lui. Donc c'est le quatrième roman qui a été écrit par David Lagercrantz, en fait, qui a été donc adapté au cinéma. C'est une nouvelle franchise de cet univers littéraire, bien sûr. Donc il n'y a plus Rooney Mara et Daniel Craig dans leur rôle de Bloomquist et puis de Lisbeth. Et donc dans cette version un peu plus fine d'action, on retrouve Lisbeth Salander qui doit récupérer un logiciel informatique qui a été créé pour prendre le contrôle d'armes nucléaires. Évidemment, elle n'est pas la seule à la recherche de ce logiciel. Il y a aussi la NSA et puis un groupe de terroristes qui sont sur la piste de ce logiciel. Et donc, elle va se retrouver traquée, la Lisbeth, toute seule. Et elle va faire appel à son ami, le journaliste Michael Bloomquist.
L'acteur Ethan Hawke passe derrière la caméra avec le film Blaze.
Oui, c'est un biopic. Le biopic de Blaze Foley, chanteur de country. Vous connaissez ?
Pas du tout.
Non. Ben, moi non plus. Avant de voir le film, je ne le connaissais pas du tout. Il faut dire qu'il n'a pas fait beaucoup de disques parce qu'il a tellement bu et il s'en est mis tellement dans le nez qu'il n'a jamais réussi à vraiment enregistrer un disque en studio. Mais il y a eu quelques enregistrements live qui ont été compilés après sa mort, quelques enregistrements aussi en 45 tours un peu confidentiels. Et puis après sa mort, ces disques sont devenus très cultes pour les chanteurs de country, comme Toons Van Zandt, qui est un autre chanteur de country assez connu. Toons Van Zandt qui a rouvert le cercueil de Blaze Foley pour aller récupérer le coupon du prêteur sur gage où il avait mis sa guitare parce qu'il avait plus de sous, et qui a comme ça pu reprendre la guitare du regretté Blaze Foley. Et c'est un film qui nous raconte donc la vie d'un artiste trituré qui a composé en vivant d'amour et d'eau fraîche avec son ami Sybil Rosen dans la forêt, et puis qui ensuite a donné des concerts et qui s'est séparé de Sybil Rosen et qui a mal fini, on va pas vous dire comment. Et son ancien ami en fait a écrit un livre qui s'appelle Living in the Woods in a Tree, On habite dans la forêt, dans un arbre. Et c'est la source qui a servi à Ethan Hawke pour faire ce film, qui est, je trouve, un biopic, certes avec un rythme assez lent, mais ça montre un peu que dans la création artistique, comme ça, il y a des temps morts qui sont nécessaires. Et puis c'est ce que montre ce film de façon assez admirable, je trouve.
Et cette semaine également, dans les salles, un premier film adapté d'un théâtre de danse et de chant qui s'appelle Les Chatouilles. Et c'est votre coup de cœur, Raphaël. C'est une œuvre inspirée d'une histoire vraie, l'histoire d'une enfance volée, qui va nous prouver une fois de plus que la pédophilie n'a pas de visage.
Oui, je trouve vraiment la réussite de ce film, c'est d'avoir pu aborder le sujet de la pédophilie et plus largement des violences que peuvent subir les enfants, la violence sexuelle en l'occurrence, mais avec la bonne distance, avec une distance qui permet que le film soit pas insoutenable. C'est assez habilement fait parce qu'en fait la cinéaste et donc qui raconte sa vie, hein, Andrea Bescon, et qui joue aussi le rôle, son propre rôle dans le film, elle se rend chez une psy et puis à partir de là il y a justement cette distance. Le spectateur peut se placer au moment de la psychothérapie pour revenir comme ça dans le temps sur des souvenirs qui sont parfois un peu déformés, et elle le dit, sur son ressenti d'enfant. Donc ça commence quand elle avait 9 ans, la petite Odette, et elle était prête pour le conservatoire de danse, hein, et puis elle avait une rage de vivre et une solitude qui cachait ce lourd secret, c'est celui des chatouilles répétées d'un ami de la famille. Et puis c'est vraiment un film qui permet de montrer quel travail il faut effectuer de résilience par rapport à un traumatisme comme celui-là. Et puis il y a beaucoup d'humour en fait dans le film et d'onirisme, ce qui permet justement aussi d'avoir la bonne distance par rapport au sujet qui est dramatique, effectivement.
Un événement cette semaine au cinéma, ça s'appelle Paume et Volcan, de la réalisatrice suisse Nathalie Oestreicher, présenté en avant-première mondiale à la section helvétique des Visions du Réel. Un film qui parle de la meilleure amie gravement malade de la réalisatrice, une amie qui s'éteint peu à peu.
Oui, Fabienne Roth était une dessinatrice très très douée. Personnellement, je l'ai connue d'ailleurs, elle a fait des dessins pour nous. Et puis, elle a eu un cancer, et puis mère de deux filles. Elle a voulu comprendre en fait comment son amie, donc Nathalie Oestreicher, qui est la réalisatrice, avait vécu elle-même les décès de son père et de son frère lorsqu'elle était jeune, pour pouvoir, elle, si vous voulez... aborder ses propres filles en essayant de leur laisser une trace qui soit pas seulement un souvenir, qui s'enferme pas dans le souvenir, pour qu'elles puissent, après la mort et le deuil, pour qu'elles puissent pleinement vivre. C'est un film très très touchant, c'est un documentaire donc vraiment très touchant sur le deuil et la mort, mais qui justement va donner envie de vivre, même si on est condamné.
Amateurs de Chris Martin et de toute l'équipe de Coldplay, soyez prêts pour vivre un moment unique en compagnie de l'un des groupes les plus en vogue de la planète, avec un documentaire, Raphaël, un documentaire que vous êtes bien évidemment allé voir.
Oui, Head Full of Dreams de Matt Whitecross s'appelle le film. Un documentaire qui mélange des performances sur scène, des images de coulisses et beaucoup d'archives inédites, ce qui nous permet d'entrer dans l'intimité des membres du groupe de Coldplay, et puis de percevoir leur sens de la solidarité, hein, entre eux, et puis aussi la générosité et la qualité de leur performance assez spectaculaire. Donc ce sera mercredi à 20h dans tous les bons cinémas.
On n'oublie pas non plus, Raphaël, de parler de La Petite Lanterne, qui concerne les enfants de
4 à 6 ans avec leurs parents. C'est un projet qu'on a lancé il y a 3 ans dans 5 villes, et puis cette année on l'étend à 30 villes en Suisse, parce qu'on a remarqué que les parents sont désormais d'une part conscients de l'importance d'accompagner leurs enfants dans leur relation aux écrans et contenus audiovisuels, mais les parents sont aussi demandeurs d'activités qui leur en donnent les moyens finalement, qui leur donnent des outils pour être à plusieurs, à deux, derrière un écran, que ce soit un écran de téléphone portable, de télé, et là ça se passe au cinéma justement, et puis ils sont ensemble avec leurs petits à côté ou sur leurs genoux, et puis ils découvrent un programme d'extrait de film, et puis ensuite un programme de court-métrage sur un thème particulier qui est lié au langage cinématographique. Et donc c'est un grand succès, et puis c'est super touchant de voir les moments de complicité entre les petits et leurs parents au cinéma. La prochaine séance dans la région, ce sera samedi à La Chaux-de-Fonds à 10h30 au cinéma Scala.
Merci Raphaël, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine, et on vous souhaite une très belle soirée.
Belle soirée Sandra, au revoir.
Et les sorties de la semaine, bien évidemment, vous les retrouvez sur nos sites en tout temps.
Les cinéphiles, la critique.
En 2000, Fernando Martín Vicente est entraîneur de basket de l'équipe d'Espagne de déficients mentaux. Très impliqué dans son travail, il aimerait emmener son équipe aux Jeux paralympiques de Sydney. Sauf qu'à quelques jours de l'inscription, nombre de ses joueurs décident d'arrêter le sport et refusent d'y aller. L'entraîneur rêve de ramener une médaille d'or dans son pays. Il décide alors de remplacer les joueurs manquants par des joueurs sans handicap et de les faire passer pour handicapés afin d'assouvir ses désirs. Mais plus que cela, de permettre aux jeunes déficients de réaliser ce rêve. Malheureusement, au retour, la supercherie est découverte et l'homme est condamné par la justice de son pays pour avoir aligné de faux handicapés lors des Jeux paralympiques. La fausse équipe cette année-là remporta 107 médailles, terminant 3e au tableau derrière l'Australie et la Grande-Bretagne. Avec ses trophées, elle fut bien évidemment très médiatisée et en plus de ne pas faire dans la dentelle, elle ne fit pas dans la discrétion. Ce scandale aux lourdes conséquences est le sujet du nouveau film du réalisateur Vianney Le Basque, Chacun pour tous, un film qui relate l'histoire. Le réalisateur a changé un peu la donne en intégrant une équipe française et non pas espagnole.
Il y a un mec qui recrute des joueurs pour faire une équipe de quartier.
On va pas faire jouer de faux handicapés. Et l'esprit olympique.
Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'emmène une équipe à Sydney.
Si on peut sauver une fédération d'handicapés,
bah ouais.
Intégration dans ce film également de deux comédiens, Vincent Chalambert et Clément Langlais, deux comédiens du Théâtre du Cristal, une troupe d'handicapés bourrés de talent.
Johan, 33 ans, 1m75, Sagittaire.
Mon nom c'est Freddy, depuis tout petit je m'appelle comme ça.
C'est vraiment des... ils sont vraiment...
Cool, bah ouais.
Effectivement, ils sont cool.
Le réalisateur, désireux de rentrer dans les mœurs, a voulu mettre en lumière le travail de ses comédiens et prouver que sur un tournage, il est possible de mêler différents acteurs aux mêmes envies et passions en ayant pour leitmotiv le professionnalisme et l'émotion. Grâce à ce film, en plus de montrer leur performance, les deux acteurs ont découvert l'improvisation et se sont, comme le réalisateur, sentis très à l'aise avec cette méthode de travail. Si le casting du film hétéroclite est rafraîchissant et qu'on est heureux de retrouver un Jean-Pierre Darroussin renforcé, Frenier et Bougon, la mise en scène, elle, reste sommaire. On rit du et avec l'handicap de l'autre sans pour autant franchir la ligne du mauvais goût. On le fait avec bienveillance, mais malheureusement, trop peu. L'exercice de faire rire sur un tel sujet est difficile et délicat et le spectateur s'en rend compte tout au long de ce film qui manque un peu d'émotion. Les dialogues sont fades, quelques scènes sont surjouées et les moments d'errance prennent le dessus. Des petits défauts qui ont gâché mon plaisir et qui m'ont laissé, durant le suivi du parcours de cette équipe, malgré tout, quand même touché.
Je crois qu'il y a une erreur.
Tu respectes ce que je dis, je suis le capitaine.
Ouais, c'est le capitaine.
Si on se fait choper, on va être les mecs les plus détestés de la planète.
Moi, c'est pour Johan et Freddy que je veux la gagner, cette finale.
Je crois qu'on a vraiment fait une connerie, là.
C'est pas grave, les gars. On l'a faite ensemble.
J'aurais voulu rire encore plus, ressentir plus d'émotions. Malheureusement, les soupirs, ce soir-là, ont pris le dessus. Si Chacun pour tous était un livre, alors le marque-page serait en milieu du roman et mon livre à moitié lu traînerait sur ma commode.
Coup de projecteur.
Mais c'est de la chanson, du titre plutôt Rain and Tears de Demis Roussos qu'on va parler puisqu'elle est au cœur de la bande originale du film pour une scène bien précise. Alors pourquoi Demis ? Eh bien parce qu'au moment de l'écriture de la scène en question, Vianney Le Basque passait en boucle justement un titre du grand Elton John. Le réalisateur a même monté la scène avec la chanson du Britannique en sachant cependant qu'il ne pourrait pas la prendre pour ce passage pour la simple et bonne raison que prendre un morceau d'Elton John équivaut à prendre un titre des Beatles et coûte la modique somme de 100 000 francs, ce qui n'entrait pas dans son budget. En quête d'un morceau qui collait avec le film, il s'est donc tourné vers une chanson tout autant émotive mais moins coûteuse. Rain and Tears, en français pluie et pleurs, s'accordait parfaitement avec la victoire de l'équipe et la pluie de confettis qui l'accompagne.
Jusqu'à 19h. Les cinéphiles.
0901 70 20 20, c'est à vous de jouer et tenter, vous devez tenter de retrouver, grâce à l'extrait que je vais vous passer, le titre d'un film. Alors, le film à l'honneur ce soir, Chacun pour tous, met en scène deux acteurs souffrant d'autisme. Il est un film en 1988 qui traitait de cet handicap. Vous devez retrouver ce titre grâce à l'extrait. extrait Je ne vous en dis pas plus, concentration ultime. Et lorsque vous avez le titre du film, eh bien 0900 70 20 20, vous repartirez, si vous gagnez, avec deux entrées pour vous rendre dans nos cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital.
Les cinéphiles.
82 82 82.
82 quoi, Ray? Tu dois combien?
Cure-dent.
Il y en a plus de 82 par terre.
Il y en a 246.
Regardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte?
250.
Pas très loin. Allez, viens, on y va.
246.
Ouais. Il en reste 4 dans la boîte.
Les cinéphiles.
Il avait donc raison, il y avait le chiffre exact dans la parterre, donc c'est cure-dents. Et j'ai quelqu'un en ligne, vous êtes nombreux d'ailleurs ce soir, bonsoir.
Oui, bonsoir.
À qui ai-je l'honneur?
Cédric.
Bonsoir Cédric, comment ça va?
Ça va bien et vous?
Oui, ça va, je vous remercie. Cédric, est-ce que vous pensez avoir retrouvé le titre du film grâce à cette histoire de cure-dents?
Oui, c'est Rain Man.
Évidemment.
Ouais, alors Dustin Hoffman.
Oui, exactement. Bien joué. Oui, qui s'appelait à l'époque, il y avait, c'était Charlie Babby. Enfin, lui s'appelait Raymond. Et Tom Cruise interprétait le rôle de Charlie Babby, un frère qui était pas très sympa en début de film, mais très touchant à la fin. Vous l'avez vu, j'imagine, puisque vous avez été très réactif. Est-ce que vous êtes cinéphile?
C'est oui, vrai. Énormément. Oui.
Est-ce que, j'ose vous demander, ce que vous êtes allé voir dernièrement?
Dernièrement, ce que je vais aller voir, c'est plutôt Bohemian Rhapsody. C'est ce que j'ai prévu d'aller voir.
Oui, alors j'en ai parlé la semaine passée, c'est vrai que c'est un film à ne pas manquer. Eh bien Cédric, vous savez que vous pourrez y aller avec la personne de votre choix, puisque c'est vous ce soir qui repartez avec ces deux entrées à faire valoir, donc dans les cinémas Cinémon, Cinépel et Cinévital. Vous restez au bout du fil, je vous prends hors antenne afin de prendre vos coordonnées. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une très très belle soirée et un grand merci d'avoir joué.
Merci à vous. Bonne soirée. Merci.
À vous aussi. Merci Cédric.
Les cinéphiles, bande originale.
En 2004, le réalisateur français Christophe Baratier signe un chef-d'œuvre inspiré de l'adaptation du film de 1945, La cage aux rossignols, Les choristes. Nommé 8 fois au César et 2 fois aux Oscars, le film remporte cette année-là le César de la meilleure musique et du meilleur son. Le temps d'un instant, retour sur ce film et sur une bande originale époustouflante et inoubliable du compositeur classique Bruno Coulet, à qui l'on doit aussi la musique des feuilletons Les Rivières de l'Espérance, Le Comte de Monte Cristo, et qui se distingua en composant les musiques de films de Microcosmos, Du Peuple Migrateur et des Rivières Pourpres, et de La Mélodie, pour ne citer que celle-ci. La bande-son Les choristes a obtenu un succès considérable dans le monde entier, tout comme le film. Un film qui narre l'histoire de Clément Mathieu, interprété par Gérard Jugnot, un professeur de musique sans emploi, fraîchement nommé comme surveillant dans un internat pour enfants difficiles, le fond de l'étang. Un internat dans lequel le directeur Rachin, joué par François Berléand, fait régner la discipline avec des méthodes peu conventionnelles, axées sur la sévérité et l'injustice. Au fond de l'étang règne une ambiance lourde et pesante et tous les coups sont permis au sens propre comme au figuré. Surtout ceux fermement dictés par Rachin et donnés par Cadmerade, transformé pour l'occasion en professeur de sport. Janvier 49, Clément Mathieu prend ses marques dans cet internat froid et insalubre. Au fil des jours, il réussit insensiblement à familiariser ses nouveaux élèves au chant et à apporter sérénité et joie dans l'établissement. Au fond de l'étang, il y a Le Guérec, Mondain, Corbin, Boniface, il y a Morange, ce garçon à la voix aussi limpide que surprenante. Au fond de l'étang, il y a aussi Pépino, le plus petit de la nichée, qui à la fin du film part dans le bus avec Junio. Le style musical du compositeur Bruno Coulet diffère d'une bande originale à une autre. En plus des sons venus d'ailleurs, il aime l'écho que renvoient les voix d'enfants. Ce fut donc une évidence pour la bande originale des choristes de diriger l'ensemble vocal des petits chanteurs de Saint-Marc, habitués à la scène et portés par leur soliste Jean-Baptiste Monnier, qui interprète Morange dans le film. C'est long, Le compositeur a réussi pour la bande-son des choristes à mélanger différents instruments et différentes sonorités et à faire rimer musique avec enchantement. Si le compositeur, tout au long de sa carrière, n'a pas énormément reçu reconnaissance de son travail, qu'il n'a pas fait l'unanimité auprès du public et qu'il fut très critiqué par les spécialistes de musique de film, il peut être fier de nous avoir émus avec cette bande originale qu'on prend plaisir encore maintenant à écouter, car des 800 000 exemplaires vendus à sa sortie en 2004, il en est un qui se trouve sur notre étagère.